Bonjour, ben merci Fred déjà pour l'invitation. Ça me fait très plaisir, surtout qu'on se connaît depuis un moment. Du coup, et moi, je suis toujours conseil marketing avec enthousiasme et motivation parce que on apprend plein de choses quand on lit
Merci.
tes écrits. Alors, moi, en fait, c'est tout simple. Je suis tout d'abord artiste peintre.
Okay.
Donc, j'ai une spécificité artistique, c'est-à-dire que je fais beaucoup de tableaux qui sont très colorés et très fleuris, alors que ça
D'accord,
soit
on peut le
mes
voir juste
portraits.
derrière toi.
Voilà, ou mes abstractions florales qui sont plutôt tournées en fait vers des végétaux en fait. Donc du coup, il n'y a pas de personnage, mais la couleur est toujours bien présente. À côté de ça, je suis exposée dans plusieurs galeries, spécialement en Autriche, en Angleterre parce que j'y ai vécu pendant 4-5 ans et en Suisse. Voilà, donc là, c'est ma partie artiste. Et puis, à côté de ça, je suis aussi autrice, on va dire, ou blogueuse, enfin, pour ceux qui sont plutôt old school, puisqu'en fait, j'anime depuis 2009 un blog qui s'appelle emily.fr, où je partage, en fait, mon quotidien dans mon métier d'artiste, en fait. Donc, c'est plutôt vers la partie entrepreneuriale que je m'intéresse et que je me tourne, et moins vers la technique, même si, de temps en temps, je parle un peu de technique, des
Ouais.
coups de cœur matériels et tout ça, mais c'est quand même plutôt... Entrepreneur,
Donc en
mon
fait, tu
job.
as vraiment ces deux casquettes, à la fois l'artiste, et donc tu vois ce côté, qu'est-ce que vit un artiste, et en même temps, bah, tu essayes d'aider, de coacher et d'aider ceux qui veulent justement se lancer en tant qu'artiste professionnel, puisque tu es artiste professionnel depuis quand exactement, dis-nous?
Alors maintenant, ça va faire depuis 2008, en fait, j'ai commencé cette activité grâce à une galerie qui m'a donné l'opportunité d'exposer. Donc ça, c'était à Paris quand j'y habitais. Maintenant, je suis dans le centre de la France, je suis en Auvergne. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, en fait, après, quand on intègre une galerie, on est obligé de suivre une sorte de régularité au niveau de ses créations. Et donc, du coup, voilà. Et je me suis aussi très vite concentrée sur comment communiquer sur mon art et développer une visibilité, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu appris en m'inspirant des blogueuses mode. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, toutes les blogueuses mode du début des années 2000, en fait. Comme c'était, je sais pas moi, Big Beauty, le blog de Betty, Cherry Blossom Girl, Caroline Daly. Ça, c'était vraiment des filles que je suivais et en fait, j'étais impressionnée parce qu'en fait, elles étaient en train de créer complètement leur métier et ça me fascinait.
Et donc, toi, tu as fait la même chose, mais pour le métier d'artiste. Et d'ailleurs, bah,
C'est ça.
tu es, je pense, le premier ou un des premiers blogs pour les créateurs, créateurs, créatrices, peintres, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on tape quelque chose sur Internet, on tombe sur ton site quasiment.
Oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai plus de 1500 articles sur mon blog, en fait, depuis le temps que je n'ai. En fait, j'ai toujours animé mon blog depuis 2009. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui sont référencés et qui aident, en fait, les artistes à avancer sur certaines questions. Quand ils recherchent, en fait, ils ont des questions en tête et qu'ils tapent, dans le moteur de recherche Google, c'est vrai que souvent, je ressors, quoi.
Alors justement, bah, on va pouvoir commencer dans le sujet. Est-ce que tu pourrais déjà bah, nous montrer des deux sites? Comme ça donnera une petite idée aux personnes de ce que tu as fait, parce que c'est des sites qui sont quasiment sur mesure. Ce n'est pas un template comme on voit souvent. Moi, j'ai acheté un template, ça coûte 50 euros, et puis voilà, je débrouille. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait sur mesure. Je voulais savoir, en fait, pour toi, quels sont les blocages des artistes justement pour se lancer sur le web? Beaucoup d'artistes peintres, bon, on sait qu'ils n'ont pas les connaissances forcément techniques, mais ils restent souvent dans le bah, je peins dans mon atelier, je fais des petites expositions. Pourquoi en fait ils n'arrivent pas à se lancer sur le web? Et bah, montre-leur un petit peu un exemple de ce que tu as fait toi. Je pense que ça les fera un petit peu, je ne dis pas rêver, mais en tout cas, ça leur montrera de ce qu'il est possible de faire et d'obtenir avec un peu d'effort.
Ok, alors donc je vais effectivement partager mon écran.
Ouais.
Tac. Hop.
Et on va voir apparaître Amélie Paris
Voilà, c'est
et
ça.
le blog d'Amélie.
C'est ça.
Alors c'est
Hop.
Amélie, hein, on précise
Oui,
pour
ça
ceux qui les
s'écrit
recherchent.
Amylee. Donc en fait, là, je crois que maintenant tu vois mon écran. Enfin,
Oui, tout
tout
à
le monde
fait.
voit mon écran. Oui, en fait, pourquoi ce pseudo? Parce qu'en fait, moi, j'ai un prénom très ordinaire qui s'écrit Émilie à la française. Et en fait, quand j'ai commencé à me mettre sur Internet en 2008-2009, quand on tapait Émilie, les pinceaux d'Émilie, l'atelier d'Émilie, il y avait déjà beaucoup ce nom qui était référencé. Et je voulais un petit peu sortir, me différencier, me démarquer. Et en fait, j'ai changé l'orthographe. Je me suis un petit peu en. Voilà, j'ai rajouté une tonalité anglaise. C'était déjà un pseudo que j'utilisais quand je bloguais. Et puis aussi, quand j'étais à l'école, je signais mes œuvres déjà avec ce pseudo-là parce que j'avais déjà ce problème à l'école d'avoir plusieurs Émilie dans ma classe. C'est vraiment question de génération. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à changer et à me créer un pseudo.
Donc, peut-être qu'un des conseils qu'il faudrait donner aux personnes qui veulent se lancer en tant qu'artiste peintre, c'est avoir un nom de domaine qui soit unique, qui s'approche en fait de leur nom d'artiste.
Oui, ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait tout, en fait. Et puis, ça crédibilise aussi le site Internet d'arriver sur un site qui s'appelle au nom de l'artiste, enfin, qui a le nom de l'artiste. Et puis aussi, pour le référencement, ça permet aussi d'être bien, bien catégorisé, quoi. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser dès le début parce qu'en plus, tout va découler de ce nom-là. Après, c'est-à-dire les pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout, vont avoir ce même pseudo ou ce même identifiant pour faciliter les choses et mémoriser en fait le nom.
Et puis, si jamais les gens sont un petit peu perdus, d'ailleurs, toi, tu as donc amidi.fr hein, et tu as également Amidi Paris. Et donc, ça, c'était pour ton activité d'artiste, en fait. Donc là, tu as choisi une extension un peu différente pour vraiment te personnaliser sur, voilà, je suis artiste française, parisienne, etc.
Exactement. Alors, en fait, moi, c'est vrai que j'ai ces deux casquettes, écrit et peinture. Ouais. Et du coup, j'ai essayé, en fait, de trouver quelque chose qui… alors, bon, là, je suis en train de revoir hein, parce que du coup, je me rends compte que ce n'est pas la meilleure des solutions d'avoir deux sites Internet. C'est beaucoup de temps. Ça permet aussi… Ça dilue un peu le trafic.
Ouais.
Donc là… Quand j'ai travaillé un peu avec quelqu'un sur le SEO, on m'a dit de tout réunifier. Donc, si j'avais un conseil déjà à donner aux gens, c'est déjà d'avoir une seule plateforme. Ouais. Moi, j'ai fait le choix d'en avoir deux, mais…
Oui, mais c'est parce que tu avais des activités qui étaient totalement distinctes et totalement différentes. Mais je te rejoins là-dessus. Beaucoup de gens, en fait, avaient à un moment donné des réflexes de créer des micro-sites, des sites éditoriaux. Et c'est devenu une telle complexité et… c'est pas forcément la maintenance, mais c'est avoir la visibilité. Comme tu dis, tu dilues tes pages, tu dilues tes référencements, les gens font des liens vers une page, mais pas vers l'autre, et tu capitalises pas sur tout. Donc, il vaut mieux avoir, en fait, oui, un seul site. Ça, c'est une bonne chose.
Oui. Donc, ça, c'est aussi à y réfléchir dès le départ. C'est-à-dire, pas de se lancer dans deux sites. C'est beaucoup de boulot. Et après, donc là, premier conseil, si vous avez même deux casquettes, par exemple, il y a des peintres des fois qui sont aussi musiciens ou des choses comme ça. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est vraiment de rajouter ces deux univers sur un même site, créer vraiment des onglets bien distincts. Donc, c'est ce qu'on va faire en fait pour mon prochain site. On va créer vraiment deux onglets bien distincts pour dire, voilà, si vous voulez la partie blog, c'est par là, la partie peinture, c'est par là. Et puis aussi créer une sorte de parcours facile que les gens puissent comprendre très rapidement. Quand ils ont une information en tête, ils arrivent tout de suite à trouver la réponse, quoi. Donc, ça, c'est le premier conseil.
Ouais, alors, le deuxième conseil, justement.
Alors, le deuxième conseil, concernant toujours la visibilité ou concernant d'autres…
La visibilité, le fait de se lancer sur le web quand on est un artiste, qu'on ne connaît pas forcément la technique ou qu'on est plutôt dans son atelier et qu'on se dit, OK, d'accord, maintenant, je vois qu'il y a de moins en moins, pendant cette période-là, il y a eu des soucis d'exposition, etc., avec le Covid. Comment on fait pour bénéficier du web, en fait, exploiter le web?
Alors, en fait, ce qu'il faut déjà se dire, c'est que si on vient sur le web, c'est pour se montrer. Donc, c'est pour montrer son art, mais c'est aussi pour montrer son artiste. Là, c'est aussi le prochain conseil que je donnerai aussi aux artistes, c'est de créer vraiment une unité entre l'artiste et l'art et ne pas scinder ces deux pôles. Parce qu'en fait, l'art ne serait rien sans l'artiste et l'artiste ne serait rien sans son art. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, et je vais dans ce sens quand je coach les artistes que j'accompagne, je leur dis vraiment, pensez aussi à vous montrer de temps en temps, comme moi je l'ai fait sur mon blog. Alors c'est vrai que sur mon blog, emily.fr, j'arrive en grand, mais on n'est pas obligé de faire comme ça, il y a d'autres techniques pour se montrer. Mais je pense que, surtout maintenant avec les réalités virtuelles, ou en tout cas les intelligences artificielles, on peut créer un tableau artistique à partir d'un logiciel. On n'est pas obligé de savoir peindre, de savoir dessiner. Donc, c'est toujours bien, en fait, en tout cas pour le collectionneur ou pour le galeriste qui arrive sur un site, de voir que derrière cet art, il y a un visage.
Oui, c'est personnalisé. Les gens achètent, en fait, pas uniquement le tableau, ils achètent l'artiste, ils achètent l'émotion, ils achètent un petit peu la liaison, le lien, etc.
Et je sais que c'est dur pour un artiste de se montrer parce qu'il veut toujours rester en retrait. Il se dit non, mais les gens s'intéressent à mon art et basta. Mais en fait, pas du tout. Moi, je le vois quand je fais des vernissages. Là, c'est plus trop le cas en ce moment avec cette situation actuelle. Mais quand je faisais des vernissages, je me rendais compte que les gens se déplaçaient pour les œuvres, mais aussi pour voir l'artiste.
Voilà. Donc, deuxième conseil, donc se montrer, faire des photos si possible avec
voilà,
quelqu'un
dans son
qui
atelier,
s'y connaît un peu, dans son
atelier. Rester simple. Voilà.
Donc, on peut demander à quelqu'un qui se connaît un petit peu en photo, même avec un simple smartphone, on peut faire quand même des choses assez
oui,
sympas.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, donc, est-ce que tu aurais d'autres conseils justement pour les gens qui veulent se lancer? Il y aurait un troisième conseil pour les artistes peintres?
Alors, pour les artistes peintres, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que quand on se lance dans la création, la pratique doit être constante. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. On ne peut pas se permettre de créer tous les 6 ou 8 mois ou de créer. Même si des fois, on ne crée pas pendant certaines périodes, à côté, on explore d'autres techniques. Mmh. Et ça, c'est hyper important aussi d'avoir ce genre de démarche intellectuelle en disant voilà, en ce moment je fais pas de tableau parce que je me rends compte que voilà, j'ai besoin aussi d'explorer de nouvelles techniques. Ça fait partie de l'enrichissement créatif, et donc il faut pas cesser en fait de pratiquer, parce que c'est en pratiquant en fait qu'on améliore, qu'on crée son style et puis surtout qu'on se développe et qu'on s'épanouit artistiquement. Donc ça, la pratique, elle doit être constante.
Donc, en fait, il faut aussi le montrer. Et ça, donc, on a parlé du site Internet, mais c'est aussi aller se montrer sur les réseaux sociaux et montrer de manière simple bah, justement ce fameux travail sur de la technique, sur des mood boards, sur des esquisses, etc. Donc, c'est important de montrer ce travail-là. Et même s'il n'y a pas de toiles qui sont effectuées, montrer la progression.
C'est ça, exactement. Parce que en fait... chaque fois qu'on travaille, un petit quart d'heure par jour, ça peut permettre vraiment de faire beaucoup. Enfin, c'est du plus pour sa création et pour son portfolio. Donc ça, il faut l'avoir en tête constamment. C'est-à-dire qu'un artiste est tout le temps en phase d'apprentissage quelque part. Il apprend toujours. Donc il n'est jamais terminé, il n'est jamais achevé. Sinon, ça serait dramatique s'il s'arrêtait. Voilà.
Alors donc justement, tu nous dis que bon, il y a le site internet qui est un peu plus statique, là on pose un petit peu les choses.
Oui.
D'un autre côté, en fait, il y a les réseaux sociaux où là tu peux justement être un peu plus dynamique et montrer un peu plus les choses qui bougent.
Oui.
Est-ce que tu peux nous montrer justement tes principaux réseaux sociaux? Alors tu nous as parlé beaucoup d'Instagram justement, tu es passé également sur Facebook. Quels sont pour toi les réseaux sociaux indispensables, les plateformes sur lesquelles un artiste peintre doit absolument être présent?
Alors, moi, j'aurais tendance maintenant, parce que bon, après, c'est vrai que tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans, je t'aurais dit Facebook en premier.
Ouais.
Là, pour développer son art et avoir une notoriété, et maintenant, Instagram est vraiment passé devant Facebook. Mm-hmm. Facebook, maintenant, c'est devenu tellement compliqué avec l'algorithme que bon...
Ouais, on n'a plus de visibilité naturelle et même les gens
exactement,
qui sont fans
voient
rien.
Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai un peu laissé tomber aussi Facebook. Alors, je publie de temps en temps, mais on va dire c'est vraiment très épisodique. En revanche, sur Instagram, j'y suis quotidiennement. Donc, que ça soit en story, je montre des choses, ou que ça soit dans mon feed, où j'essaye de montrer un peu mon univers. En un clin d'œil, les gens peuvent se faire déjà une idée de ce qu'ils peuvent trouver au sein
de mon portfolio. Oui, parce que je vois on voit ici une toile qui est en avancement, parce que si on voit là sur le milieu, il y a donc une toile où il y avait au début l'esquisse. Là, on voit qu'il y a la petite princesse avec. Enfin, je ne sais pas si c'est une princesse, ça a l'air d'une
princesse.
Oui, non,
c'est un personnage féerique, on va dire.
Voilà, et on voit bien que tu la mets en scène, puisqu'il y a les fleurs, des vraies fleurs. Derrière, il y a le tableau, on voit l'avancement. Et c'est assez intéressant comme de montrer ces fameux coulisses. Il ne faut pas hésiter à montrer comment
c'est ça.
On fait.
Et c'est vrai que moi, je n'hésite pas en fait, à mêler dans mon portfolio. J'essaye en fait, de faire un portfolio, une œuvre qui montre des œuvres, en fait. Donc, j'essaie de le travailler au maximum. Alors après, y a deux écoles. Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne le travaille pas, je le laisse comme ça. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien que les couleurs se répondent, que les motifs aussi apparaissent dans plusieurs photos. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'y fais attention. Quand je regarde mon feed, ça me fait plaisir de le regarder.
C'est comme une œuvre. En fait, s'il est composé, et c'est pas en fait comme font certains artistes où en fait ils se prennent en photo comme ci, comme ça. Toi, en fait, t'as pris le parti d'aller vraiment vers un feed qui est artistique et vraiment pensé et réfléchi.
C'est ça. Des fois, même, je décompose l'œuvre. Par exemple, là, au milieu, on a une œuvre en trois parties, mais en fait, c'est un seul tableau, normalement, qui est... d'ailleurs, je crois que je le montre à un moment donné. Ah non, là, c'était pas ça. Mais en fait, c'est un tableau que j'ai composé, enfin, que j'ai divisé en trois images pour que, quand je le mette dans mon feed, il s'intègre plus facilement.
D'accord. Comme ça, en fait, ça permet, oui, d'avoir une vision plus adaptée au format carré. D'ailleurs, on a vu il y a deux secondes, c'est que tu m'as dit que c'est important de publier régulièrement. Oui. Quels sont les secrets pour réussir à avoir un peu plus de visibilité sur Instagram? Parce que comme tu l'as dit, c'est facile d'ouvrir une page, c'est facile de prendre des photos. Comment on fait pour capter un peu plus de visibilité? Quels sont à toi tes petits secrets pour réussir? En fait, là, je crois que tu dois avoir 9000 ou 10 000.
Oui, à peu près, oui.
Sur Instagram.
C'est ça. Alors, moi déjà, ce qui va être vraiment important, c'est l'image. L'image, il faut vraiment qu'elle soit quand même, qu'elle ait quand même un certain soin dans la publication de l'image. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est que quand on ne peut pas faire des images lumineuses, il faut juste acheter une petite lampe d'appoint pour pouvoir, quand on fait des petits shootings comme ça vite fait, on allume sa petite lampe. Il y a des ring lights qui sont très bien et ou des light box qui permettent vraiment d'avoir une image lumineuse, parce que je pense que la luminosité est vraiment une part importante de l'intérêt de l'attraction de l'image. Si l'image est toute voilée ou toute grise, ça donne pas envie de feuilleter le.
Pour toi, où tes tableaux sont très très colorés, donc si tu vois pas tout cet aspect coloré, ça va être un peu dommage.
Oui. Mais je connais des artistes, par exemple, qui travaillent le fusain ou qui travaillent le crayon graphite. Et donc, ils sont beaucoup en noir et blanc. Mais c'est vrai que s'ils n'ont pas un éclairage optimal, leur feuille va être tout de suite grise. Et ça ne va pas faire ressortir leur création comme il faudrait, en fait. Les contrastes vont être moins visibles. Ça va être tout va être un peu grisé. Et c'est dommage. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut y penser, s'équiper. Léger, hein. Je ne demande pas d'avoir un studio de photo chez soi, mais voilà, il y a des petites ring lights qui commencent, je crois, à 40 euros et c'est très bien.
Un ring light, en fait, c'est une lampe LED en forme de rond que l'on peut trouver sur Amazon.
C'est ça, c'est un anneau et du coup, les blogueuses beauté l'utilisent beaucoup parce qu'en fait, elles peuvent mettre leur miroir ou elles peuvent mettre leur téléphone dans le cercle et du coup, elles sont vraiment bien éclairées et pour présenter des produits make-up, c'est l'idéal. Mais ça marche aussi pour les tableaux, finalement.
Donc là, le premier conseil, donc de belles photos. Quel serait ton deuxième conseil pour réussir justement à avoir une communauté active, engagée sur Insta?
Alors après, ce qui est important de faire aussi, alors là, par exemple, je vais passer sur mon autre compte Instagram, qui est plutôt, on va dire, qui a plutôt une visée d'éduquer ou de cultiver les gens, en tout cas ceux qui veulent devenir artistes professionnels et qui ont envie de se lancer dans ce métier. Donc là, c'est un compte où là, du coup, je délivre de l'information qui est un petit peu reprise de mon blog. Hein. J'ai rien inventé, c'est un petit peu du recyclage.
La réutilisation, ce qu'il faut faire.
C'est ça. J'ai récupéré ce que j'avais sur mon blog et puis je l'ai synthétisé au maximum. Et en fait, ce que les gens aiment en fait dans les publications, c'est aussi avoir des textes qui peuvent leur apporter quelque chose. Alors, il y a trois types de textes en fait qui vont intéresser les abonnés. Donc, pour ma part, en tout cas, les gens qui me lisent, c'est vraiment des gens qui recherchent de l'information, donc qui vont être vraiment dans une optique de j'apprends, je me renseigne. Donc, c'est vrai que par exemple, si je clique, je cherche, voilà. Donc là, par exemple, dans mes légendes de publication, je vais donner des conseils. Ça, ça va intéresser forcément les gens. En plus, le fait de lire, ça va les faire les retarder légèrement sur ma publication. Donc, l'algorithme va enregistrer comme quoi il y a de l'intérêt. Donc, du coup, ça aussi, ça va être analysé. Mm-hmm. Et puis après, tu vas avoir une deuxième type de texte qui peut intéresser les gens. C'est le côté un peu divertissant. Le divertissement, c'est-à-dire un texte soit qui te fait rire, soit quelque chose comme ça. Donc ça aussi, moi, je le pratique moins parce que ce n'est pas du tout dans mon
façon de communiquer.
Mais tu peux avoir des artistes qui créent des petits textes avec beaucoup d'humour. Donc ça, c'est toujours plaisant de les lire parce que du coup, tu passes un bon moment. D'accord. Donc il y a ce deuxième type de texte. Et puis après, tu vas avoir le troisième type de texte qui est plutôt dans l'émotion. Donc, échanger sur un parcours, échanger sur une expérience, échanger, échanger aussi. Et ça aussi, ça plaît beaucoup parce que même si on a un texte un peu dans l'émotion, il y a un message derrière. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant de lire ce type de message. Donc ça, c'est vraiment des légendes qu'on peut utiliser sur Instagram qui, au lieu de mettre juste mon tableau ou une photo toute banale et de mettre que des hashtags, par exemple, comme beaucoup font, tu vois, ils vont mettre juste en légende des hashtags. Bah, je trouve que c'est un peu réducteur, même si le hashtag sert à mieux être référencé sur Explorer Instagram. Mais je trouve que de rajouter une petite légende, déjà, ça capte l'attention. En plus, s'il y a une question à la fin de ton texte, ben, du coup, ça crée aussi une dynamique.
Ouais, là, on voit ici, tu connaissais les 5 astuces.
Voilà. Et donc, du coup, ben, ça fait que je vais avoir des gens qui vont interagir. Et voilà. Donc, ça, c'est toujours intéressant à faire. Donc, à aller chercher des idées, aller chercher ses abonnés pour qu'il y ait de l'échange.
Alors justement, là on voit bien que dans ta publication, tu essaies de mettre des emojis pour faire donc passer un petit peu l'émotion, la question pour avoir de l'interaction et des commentaires. Tu parlais aussi des hashtags. Alors les hashtags, c'est tout un sujet, je sais que c'est quelque chose qui est essentiel sur Instagram. Alors comment toi tu choisis les hashtags sur tes publications?
Alors en fait, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est déjà prendre une feuille de papier et se créer une dizaine de listes avec des thématiques différentes. Donc, si par exemple, on prend le compte emily.fr qui est plutôt vers le conseil, moi, je vais avoir des listes qui vont tourner vers l'artiste entrepreneur, l'artiste conseil, l'information. Et donc, en fait, je vais mettre des thématiques à mes listes. Et à partir de ces thématiques, en fait, je vais ensuite chercher des hashtags. Alors, c'est vrai que tu me diras, oui, il y a peut-être des applications qui existent déjà avec des listes de hashtags, mais je trouve que ces hashtags, ils sont tellement utilisés. Tellement on les retrouve sur tous les blogs.
C'est des hashtags génériques où il y en a des dizaines de milliers, mais tout le monde, voire des centaines de milliers, mais tout le monde se met dessus. Quoi. À mon avis, si tu mets peintre, ou tableau, ou toile, ou peinture, c'est.
Mais t'es noyé dans une masse. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je me sers d'Internet Explorer, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais taper hashtag, je ne sais pas moi, artiste entrepreneur. Alors, hop, on va mettre comme ça parce que. Et en fait, on regarde ce qui apparaît. S'il y en a un qui apparaît, par exemple, qui est un peu intéressant, où il y a du monde déjà qui publie, ça peut être sympa de le mettre dans
une liste. 14 000 artistes, là, 250 millions, femmes artistes, 139.
Ouais. Après, donc là, artiste conseil, tu vois, par exemple, il n'est pas intéressant comme hashtag, il n'y a qu'une publication. Ouais. Donc voilà, ça permet, moi, je les tape en fait directement, je mets le hashtag. Et puis, je tape artiste, je vois ce qui sort. Par exemple, vie d'artiste, ça peut être intéressant si on parle de son atelier. Si on fait une publication sur son atelier, ce hashtag vie d'artiste peut être vachement intéressant. Peut-être même plus intéressant que atelier d'artiste, parce que atelier d'artiste, il y a beaucoup déjà de monde sur ce hashtag-là. Donc après, on peut mettre les deux, mais je pense que vie d'artiste, ça interpellera plus les gens. Ouais. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je me crée donc des listes avec des thématiques.
Ouais, donc après, en fait, pour la partie. Tu choisis des hashtags qui sont ni trop populaires, mais qui ont un petit peu de visite, et tu fais comme ça ton mixage.
C'est ça. Et après, en fait, pour la partie peinture, et ben là, je vais me créer des listes qui vont être plutôt une liste qui va être sur la technique. Donc, par exemple, peinture acrylique. Si je tape peinture acrylique, je vais regarder ce qui sort. Hop. Voilà, et donc là, je vais voir peinture acrylique. Alors, il y a deux types de façons. Peinture acrylique toile aussi. C'est un hashtag qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, voilà. Et ça, je vais me créer une liste technique. Après, je vais me créer une liste sujet. Moi, je parle beaucoup de la femme. Donc, je vais me créer une liste qui va parler femme artiste, femme portrait, femme beauté, enfin, des choses comme ça. Après, je vais me créer une liste autour des fleurs, une liste autour de la couleur. Une liste. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je jongle avec mes différentes listes, en fait. Et après, comme ça, j'ai jamais le même groupe de hashtag.
Et en fait, tu choisis en fait selon la publication dans tes fameuses listes celles qui ceux qui seront les plus adaptés.
Ouais. Et tu en mets. Donc ça, il faut se poser un après-midi puis se créer toutes ces listes et comme ça après on les réutilise. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de les faire. Quoi.
Et tu en mets combien en fait par publication parce que justement sur Instagram, il y a des tendances à en mettre une dizaine, une quinzaine, etc. En moyenne, tu en mets combien sur tes publications
Moi, je suis plutôt d'avis de mettre une quinzaine, entre 15 et 20. Ouais. Et Alors après, moi, je vais les mettre plutôt dans les commentaires, les hashtags. Je préfère.
Et pas dans la légende de la publication.
C'est ça. Je les mets en commentaire, mais de toute façon, ça a le même impact, hein, que ce soit en légende ou en commentaire, ça a le même effet. Donc,
mais je pense que c'est parce que tu publies aussi peut-être en live les publications, parce que si tu fais de la planification avec des genres Buffer, Swello, là, tu peux malheureusement pas les mettre en commentaire.
Non, voilà. Par exemple, sur amélie.fr, le conseil, la partie conseil, c'est souvent en légende parce qu'effectivement, on l'automatise. Et nous, on passe par Studio Creator, qui est donc l'équivalent qui gère Facebook et Instagram et qui fait donc la planification et de la programmation de posts.
Oui, ça, c'est l'outil gratuit Studio Creator de Facebook qui fait de la publication d'Instagram et de la publication Facebook et qui est gratuit totalement.
Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors après, il y a une petite astuce aussi auquel les artistes pensent pas forcément, c'est que des fois, pour ouvrir leur visibilité, c'est important aussi des fois de mettre des hashtags de marques de peinture. Par exemple, tu vois, cette publication, en fait, j'ai mis que des produits Sennelier. Donc Sennelier, pour ceux qui sont artistes, ils connaîtront tout de suite. C'est vraiment une marque phare en France de peinture acrylique et de peinture à l'huile. Et c'est vrai, en fait, que j'ai parlé d'eux et je les avais tagués, en fait. Et en fait, il y a certaines fois, alors c'est pas tous les coups non plus, ben la marque, elle va être intéressée parce que du coup, elle
ça les valorise.
Exactement, et ils vont le repartager en story. Donc toi, ça peut t'ouvrir aussi la visibilité de ce côté-là, parce que du coup, tu te retrouves avec des gens qui s'abonnent parce que grâce à Sennelier qui t'a repartagé sur sa story. Et ça, c'est intéressant. En revanche, bien sûr, quand on fait une publication pour une marque, il faut mettre qu'une marque. On peut pas mélanger, on peut pas taguer par exemple PBO, Sennelier, Liquitex. C'est sûr, là ils repartageront pas du tout.
Parce qu'ils vont pas mettre en avant leurs concurrents.
C'est ça. Donc ça, il faut y penser.
Bon, alors autrement, là tout à l'heure, pendant que tu étais en train de scroller sur ton mur Instagram, j'ai vu que tu avais donc une petite publication TikTok. C'est vrai que moi aussi, j'ai tendance à utiliser TikTok parce que je trouve que c'est super simple pour prendre des photos et à partir de photos, en faire justement une story ou en faire une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'était là ou c'était… Alors, dis-moi, quel est ton usage justement de TikTok par rapport à Instagram qui est un réseau, entre guillemets, concurrent.
C'est ça. Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que du coup, pour l'instant, mon TikTok est tout récent. Je dois avoir une dizaine de publications concernant mon art. Et en fait, j'ai mis en avant… J'ai essayé de créer une communauté différente sur TikTok. Et en fait, moi, comme j'ai travaillé le crypto art, je me suis mise à ça, on va dire, en début d'année. Donc, le crypto art, c'est tout ce qui touche les NFT, la crypto-monnaie et tout ça. Et donc, en fait, c'est une façon différente de penser l'art, en fait.
Ouais.
Et je me suis servie, en fait, de mon TikTok pour parler de la crypto-monnaie et crypto art sur cette plateforme-là. Donc, j'ai partagé, en fait, les NFT. Donc, les NFT, ce sont, en fait, des œuvres qui sont en ligne. Et du coup, que tu peux vendre via des plateformes qui sont vraiment spécifiques à ce type d'achat. Et en fait, voilà, j'ai voulu un peu tester comment ça marchait. Après, je pense que TikTok, c'est vraiment, il faut vraiment être à l'aise avec son image, parce qu'en fait, pour faire des TikTok qui marchent bien, il faut en fait se montrer.
Oui, on le voit bien dans le temps. C'est une manière totalement différente de communiquer. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est des choses qui sont vraiment ce que j'appelle le snack content. C'est un truc qu'on oublie vite et qu'on regarde en moins de 15 secondes. Il y a vraiment peu de valeur ajoutée. Mais on s'amuse un peu. Puis les gens montrent, tiens, ceci, cela. Souvent, tu n'as rien dedans, mais ça passe le temps. Les gens, ils scrollent et ils passent le temps.
C'est ça. Alors après, il y a des comptes qui sont vraiment très intéressants sur TikTok. Il faut juste les trouver. Dans le milieu de l'art, pour l'instant, ça reste que des artistes qui montrent leurs tableaux. Donc, c'est vrai que comme ils ne se mettent pas souvent en avant, les vues n'arrivent pas aussi rapidement. Moi, je l'ai vu, par exemple, avec le mien, où je ne montre que mes œuvres. J'ai un peu du mal à décoller. Donc, maintenant, j'ai compris. Et donc, en septembre, je vais faire des petits lives ou des petites choses comme ça qui vont permettre un petit peu de faire remonter. Après, TikTok,
comme par exemple ton conseil d'artiste, là où on te voit peu, mais c'est du montage sur TikTok, c'est clair qu'il faudra plutôt faire quelque chose où on te verra toi, qui montrera à l'écran tel truc, en sautant, en faisant ceci, en dansant. Tu vois, c'est totalement différent.
Je vais essayer de te montrer vite fait mon TikTok, qui est, je te dis, hein, il est tout récent. Alors attends, comment je peux rapidement, je me dépêche.
Ou tu vas sur TikTok tout court et je pense que tu arrives.
Ouais. Et là, pardon. Et là, je vais taper.
Ouais, on voit bien ici, là, d'ailleurs, en plus, en live, avec le gars qui danse et tout ça. C'est...
Oui,
c'est
oui, oui.
Typiquement...
Alors, moi, j'ai vraiment pas fait ça du tout. Hein. Je me suis vraiment.
Pas encore.
Pas encore. Et donc, voilà. Donc, tu vois, en fait. Alors, attends, je vais enlever le petit personnage, ma petite tête, là. Tu vois, donc, c'est des œuvres animées que j'ai un petit peu partagées. Parce qu'en fait, dans le crypto art, les œuvres sont souvent animées. En fait, on montre, c'est souvent du mélange entre l'animation, la vidéo, le jeu vidéo, et on va dire, tu vois là par exemple, il y a cette œuvre-ci, elle est animée, et donc cette œuvre, tu peux l'acheter en tant que œuvre numérique.
D'ailleurs,
en fait.
Ouais, là, il y a l'œil qui s'ouvre, qui se ferme dans ton tableau. Forcément, t'as qu'un seul tableau, donc c'est toi
c'est
qui
ça.
As rajouté cet aspect œil qui s'ouvre,
voilà.
Qui se ferme.
Alors là, j'ai travaillé vraiment avec une motion designer, donc j'ai vraiment, parce que moi j'ai pas la compétence, je connais pas non plus tous les logiciels vidéo. Et en fait, là, on a travaillé à deux, c'est vraiment un duo en fait. Elle travaille sur l'animation, elle regarde les tableaux que je lui propose, et ensuite, elle, à partir de là, elle crée elle aussi. Et donc voilà. Donc ça, c'est un tout nouveau challenge que je me suis lancé.
Ouais. Mais t'as raison, parce qu'en fait, moi en fait, je me suis un petit peu amusé aussi sur TikTok cet été, parce que beaucoup de personnes en parlent, et puis je connais d'autres personnes qui ont fait quand même plusieurs centaines de milliers de vues. Et c'est vrai que donc il y a cet aspect de personnalisation, faire passer le temps, les gens sont là. À chaque fois, je cite c'est Patrick Lelay avec son temps de cerveau disponible. Hein, TikTok, c'est tout à fait ce genre de plateforme. Ce que j'ai fait aussi, je me suis amusé à faire du news checking. Parce qu'en fait, sur TikTok,
d'accord.
Il y a beaucoup de challenges ou de hashtags qui marquent
bien. Des trends, ouais.
Je me suis amusé à prendre, parce que ma fille aimait bien le truc de Kevin, un jour j'irai à Tahiti. Et je me suis amusé rien que pour faire quelques tests, à prendre une photo de mon écran de Tahiti et faire juste bouger, et mettre le hashtag un jour j'irai à Tahiti, plus un ou deux hashtags.
Ouais, ça peut être ça. Ouais.
Et bim, j'ai eu ces 300, 400 vues, mais sans rien faire. Il y avait juste une photo jetée devant mon écran. Et on ne me voyait même pas moi. Hein, c'était juste pour faire un test. Et c'est vrai que le hashtag comme ça pour essayer de capter un peu de trafic, ça marche bien. Pareil aussi, le fait de mentionner des marques sur TikTok, etc., c'est aussi quelque chose qui marche aussi bien que sur Instagram.
C'est ça. Donc voilà, donc là, j'ai voulu tester. C'est tout récent, ce compte. Vraiment, voilà. J'ai un peu aussi en mode observatrice. Je regarde un peu ce que font les autres aussi pour un petit peu après m'en imprégner et voir ce que je peux proposer de mon côté.
Bah oui, parce que c'est à chaque fois, chaque plateforme est un petit peu différente. Et on a beau dire, entre un Facebook, un Instagram, un TikTok, après, bon, par exemple sur LinkedIn, Twitter, etc., mais c'est pas forcément les canaux des artistes. Et en fait, il faut avoir des différences. Mais justement, là, on a parlé un petit peu des astuces. Les astuces,
oui.
Tu nous as dit qu'il fallait se montrer soi-même. Qu'il fallait bien travailler les photos, qu'il fallait travailler les hashtags. Si tu avais 7 astuces, en fait, justement, pour tirer un maximum d'Instagram. Là, on a déjà cité 3. Est-ce que tu aurais d'autres astuces qui font vraiment la différence? Alors, citer les marques aussi, ça pourrait être un quatrième astuce. Est-ce qu'il y a deux ou trois autres astuces que tu pourrais partager et dire, voilà, tiens, ça, c'est des trucs qui marchent, je les ai testés, faites-le également.
Alors après, moi, c'est j'aime bien aussi faire intervenir ma communauté. Et je sais, par exemple, qu'il y a des publications qui marchent bien dans le sens où on demande en fait l'avis du public. Et par exemple, sur Instagram, on peut créer aussi des carousels avec deux, par exemple, deux photos différentes. Et puis, on demande aussi en commentaire quel est le tableau qu'ils préfèrent. Quel est le tableau que vous préférez? Est-ce que c'est l'image numéro 1 ou l'image numéro 2? Et du coup, toi, en plus, ça te permet en tant qu'artiste de savoir le tableau qui a le plus de succès. Comme ça, si tu veux le reproduire après en édition limitée, ça peut toujours être très intéressant de le savoir. Et donc, ça crée aussi des interactions avec les gens qui vont te suivre en commentaire, parce que du coup, ils vont interagir, ils vont dire, moi, l'image 1, moi, c'est l'image 2. Et ça, c'est hyper facile. Moi, j'appelle ça des art battles. En fait, on met en dualité.
Est-ce que tu peux nous en montrer une de tes art battles?
Alors, elles doivent être un peu anciennes. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon blog. Ça sera plus rapide parce que j'ai fait un article là-dessus.
D'accord. Bateau. Donc en fait, oui, demander l'avis, c'est vrai que les gens comme ça, en plus, ils peuvent se sentir concernés par le tableau, par l'œuvre.
C'est ça. Alors, ça marche aussi bien sur Facebook que sur Instagram. C'est vraiment le... Merci. Comment dire ? Donc voilà, c'est ce type, par exemple, sur Facebook, j'avais posté ça. Voilà, blanc, tu mets un pouce en l'air, tu préfères le cadre noir, un pouce, un cœur. Donc en fait, les gens, ils n'ont même pas
du tout la même image au tableau. Là, c'est vraiment une énorme différence.
C'est ça. Donc après, tu peux avoir des art battles dans ce style-là où du coup, l'œuvre est in situ et puis tu demandes aux gens de quel tableau ils préfèrent. Là aussi, ils peuvent interagir. Ou alors, tu peux faire une art battle toute simple. Alors là, c'est toujours sur Facebook. Hein. Voilà, image de gauche, pouce bleu, image de droite, le cœur. En fait, les gens, ils n'ont même pas besoin d'écrire. Ils appuient juste sur l'émoticône. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Sur Instagram, ils sont obligés de... Bon, voilà, ils peuvent aussi faire des émoticônes. Mais ça marche dans les deux cas, en fait, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Ce qui est bien avec Instagram, c'est qu'on peut créer des carousels aussi sur Facebook, tu me diras. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est ce genre d'astuces qui... Et vraiment, ça, c'est tout simple et ça crée beaucoup, beaucoup d'interactions.
Voilà. Alors, je crois aussi, tout à l'heure, dans la préparation, tu me disais que tu utilisais beaucoup les stories et les reels. Et pour toi, en fait, ça, tu m'as dit, en ce mois de juillet, en ce mois d'août, j'ai fait surtout des stories plus que des publications. Alors, c'est ça peut-être le sixième ou septième conseil. Pourquoi il faut se concentrer sur ces fameuses stories et ces reels plutôt que de faire une publication classique?
Alors, c'est vrai que dans le feed, en fait, sur Instagram, on va communiquer essentiellement pour se créer un portfolio. Tu vois, quand je publie sur mon feed, c'est une photo qui est un peu soignée, j'ai mis en scène des fois, c'est complètement différent de la story qui va durer 24 heures, sauf si bien sûr on la met à la une, mais bon, ça c'est un autre truc. Mais en fait, la story, elle est là pour être éphémère. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on n'a pas besoin de travailler la photo, elle peut être brute. Et elle peut parler de tout, en fait. En fait, moi, ce que je dis, c'est que dans votre feed, vous parlez de votre art et de votre artiste de façon professionnelle. Et dans votre story, vous parlez de votre personnalité. Donc, si vous avez envie de dire que vous êtes quelqu'un de plein d'humour et tout, c'est en story qu'il faut le dire. Si vous avez envie de communiquer sur des inspirations, des références, des films que vous avez vus, c'est en story qu'il faut le dire. Privilégiez plutôt le feed comme un portfolio, un album que vous avez envie de montrer.
Ouais, quelque chose de plutôt statique et assez...
C'est ça, plutôt travailler. Voilà.
Et la story, c'est plutôt l'éphémère, la personnalité, l'émotion.
Exactement, tu as tout compris. Donc du coup, là, par exemple, pour la story en ce moment que j'ai sur amélie.fr, donc tu vois, c'est ma dernière publication, donc allez voir ce que j'ai publié sur mon feed. Après, ça a été le coup de cœur d'un livre actuellement que je suis en train de lire, donc du coup, j'ai fait une petite photo, voilà. Là, du coup, j'étais en train de préparer une interview, tiens, je ne sais pas avec qui, mais... Du coup, voilà. Donc, c'est ce genre, en fait, de petites infos qui permettent aussi de montrer les coulisses et ça crée encore plus de liens avec sa communauté. Voilà. Donc, ça, c'est aussi important de savoir qu'il faut aussi faire des stories parce que c'est là où on tisse du lien plus fort.
Alors, justement, là, il y a les stories, c'est les publications et les reels. Alors, les reels, c'est le nouveau format, entre guillemets, un nouveau format de Capcom depuis un petit moment. Alors, toi aussi, tu utilises beaucoup les reels?
Oui. Alors j'en ai fait quelques-uns. Donc le dernier en date, en fait c'est des reels qui apportent vraiment beaucoup d'informations. Hein. C'est pour amélie.fr, c'est vraiment chaque fois des conseils, des astuces. Donc par exemple là, ça va être voilà, tu vois, là, quatre idées pour montrer son visage partiellement. Donc là je dis un, vous pouvez utiliser des. En fait il y a beaucoup d'artistes qui ont des fois des difficultés à se mettre en photo. Donc là, je leur livre quatre petites infos où ils peuvent se prendre en photo et du coup aussi cacher un peu leur visage parce qu'ils sont toujours très, très mal à l'aise pour se montrer, en fait. Donc, je leur donne des petites astuces. Voilà, c'est ce genre de choses que je vais partager dans mes reels.
Mais tout à fait. Et ça, c'est typiquement ce genre de petite animation-là. Et c'est ce qui plaît sur Instagram, des trucs simples où on voit la personne. Et c'est tout à fait ça qui est assez intéressant.
Là, alors, par exemple, c'est pour un deuxième Reels que je voulais te montrer, c'est en fait, je montre quelle est l'équipe qui se cache derrière un artiste peintre.
Ouais. Alors, donc là, j'ai fait
la directrice artistique, le département recherche et développement, c'est toujours la même personne. Ouais. Le service expédition, c'est toujours la même personne. Enfin, voilà. Donc là, c'est un peu aussi le côté drôle de la situation, community manager. Voilà.
Et la fille qui range aussi.
Voilà, donc ça plaît bien, quoi.
Ouais, mais typiquement, c'est vrai que ça, c'est des trucs où tu dis, mais finalement, ça apporte pas beaucoup de valeur ajoutée. Et pourtant, les gens adorent ça parce que c'est humain, ça montre un petit peu, c'est humoristique. Et les gens passent du bon temps. Et puis, finalement, ils créent de l'émotion avec toi, de la liaison. Et ce qui fait après, ils vont avoir un rapport qui va être différent. Et puis, c'est vraiment cet aspect-là, créer la confiance, créer l'émotion. Et à faire que les gens vont soit acheter du conseil ou de la peinture. Comme c'est le cas. Alors, justement, on est quasiment à la fin de cette interview.
Mais oui,
on va arriver à cette partie acheter les toiles, vendre ses toiles sur Internet. Et donc, toi, tu fais pas mal d'actions. Alors, tu as fait, depuis un certain temps, tu as fait, par exemple, des soldes VIP, tu as fait des offres spéciales. Dis-nous un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce qui marche bien si on veut vendre ses toiles? Est-ce qu'on utilise plutôt sur Instagram? Est-ce qu'on utilise sur Facebook? Est-ce qu'on utilise son site Internet? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui voudraient vendre en fait leurs œuvres sur le web?
Alors déjà, si on veut vendre sur un réseau social, il faut s'impliquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de publier une fois tous les mois, on n'aura pas de visibilité et puis l'algorithme va tout de suite nous mettre de côté. Donc par exemple, c'est très bien que tu me poses cette question parce qu'on arrive à Noël et la période avant Noël est vraiment une période qu'il faut vraiment travailler sur son réseau social. Donc si on veut avoir des ventes pour Noël, pour que les gens nous voient, il faut au minimum déjà publier 3 fois par semaine. Voilà, ça c'est vraiment le minimum de chez minimum.
Mais avant Noël ou en novembre ou
à partir d'octobre, il faut commencer. Ouais, à partir d'octobre, il faut mi-octobre, on va dire, il faut commencer à être régulier dans ses publications, montrer. Alors après, il y a des artistes qui me disent souvent, je ne sais pas quoi montrer pour mon art. En fait, c'est tout simple. Ce que les gens aiment voir, c'est des tableaux. Des tableaux dans des intérieurs. Alors ça, il y a des applications qui existent, hein, qui permettent en fait
de changer le tableau.
Voilà. Et ça, c'est super simple. Tu télécharges ton tableau et après, tu l'incorpores. Par exemple, là, je peux le montrer rapidement. Ça s'appelle Canvi. Et en fait, j'ai découvert cette application. Et c'est super. Ça permet de mettre des toiles en situation. C'est vraiment génialissime. Et donc là, c'est le fondateur, hein, donc voilà, c'est Tobias, avec qui j'ai pu échanger, j'ai pu avoir une interview. Hop, j'allais trop vite. Voilà. Donc voilà, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on voit l'œuvre qui respecte les dimensions, parce qu'en plus, quand tu télécharges, tu indiques les dimensions de l'œuvre. Ça respecte les dimensions et ça permet vraiment de faire des images un peu plus séduisantes. Donc pour visualiser et pour créer... comment dire, des images qui permettent un petit peu de donner envie. Il n'y a rien de mieux, en fait, que ce genre de visuel quand vous allez commencer à faire des visuels régulièrement, surtout avant Noël. Donc, il y a ce genre de visuel à partager. Vous pouvez aussi partager votre univers à l'atelier, faire des photos de votre matériel. Ça, les gens, ils adorent. Montrer une œuvre aussi en cours de création. Donc, ça, avec différents, en fait, un carrousel avec différentes étapes. Et ça, les gens, ils raffolent. Vous dites régulièrement aussi dans vos commentaires que vos œuvres sont disponibles. Ça aussi, c'était intéressant de le noter. Et c'est comme ça, c'est des petits détails en fait. Là, donc ça, c'est mon chéri qui fait aussi des photos. Il utilise aussi l'application Canvi pour un petit peu montrer son art. Voilà. Donc et voilà. Donc ça, il faut être régulier et publier des choses de temps en temps, mettre sa photo aussi d'artiste pour montrer qu'on est présent. Voilà, donc si on arrive avec ces 5-6 façons de montrer son quotidien d'artiste, ça va très vite en fait. Et puis après, dès qu'on a une actualité, par exemple, qu'on est cité sur un blog ou dans un journal, eh bien, il faut servir aussi de cette plateforme pour communiquer dessus. Voilà.
Et quant aux promotions, qu'est-ce que tu... Donc là, tu indiques qu'il faut être prêt pour Noël. Et se dire, ben voilà, j'en peux dire régulièrement, je fais une petite mention. Toi, tu as tenté quand même pas mal de formats. Quel est le format qui fonctionne le mieux en termes de promotion pour vendre sur le web? Est-ce qu'il faut faire une offre spéciale? Est-ce qu'il faut faire des soldes cliquées pour ses fans Instagram ou Facebook? Ou alors, il faut plutôt faire des éditions spéciales, des petits formats qui sont plus abordables? Quel est ton retour d'expérience là-dessus?
Alors, si on commence un petit peu à communiquer au mois d'octobre, ce qui est bien, c'est aussi de communiquer sur les différents services qu'on propose. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des différents prix, dans le sens où on peut avoir des œuvres originales qui ont un certain prix et qui vont donc, comment dire, cibler une certaine clientèle.
Après,
on peut proposer des éditions limitées, par exemple, du coup, qui sont des reprises des photos, en fait, d'œuvres qui ont bien marché ou qui ont été souvent partagées. Ces photos-là, enfin, ces œuvres-là qu'on laissait, on sait quelles œuvres marchent bien sur les réseaux sociaux. Donc, on en fait des éditions limitées, on les imprime sur toile ou sur papier d'art. Et là, on a des prix complètement différents avec une cible complètement différente. Donc, ça peut être aussi... En tout cas, il faut le communiquer aussi sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Il faut que ça soit clairement affiché,
annoncé. Qui est ce fameux haut de gamme avec le tableau original, les tirages d'éditions limitées.
C'est ça. Et puis après, ce qu'il faut aussi faire, c'est proposer aussi des œuvres avec différents formats. Il ne faut pas créer que des œuvres des 100 par 50, par exemple, parce que ça, c'est déjà un certain budget, en tout cas. Donc, il faut essayer aussi
faire des tableaux de grande taille.
Et pour le faire. Voilà. Donc, ça crée des formats différents. Et puis aussi indiquer qu'on peut faire des commandes personnalisées. Donc, ça aussi, c'est un service qu'on peut proposer. En disant, voilà, ben, vous avez pas eu de coup de cœur sur une œuvre, mais vous aimez quand même mon univers et vous avez envie d'une œuvre qui correspond vraiment à ce que vous avez besoin. Et ben donc ça, il faut voilà, c'est on crée une œuvre à partir des goûts et des couleurs, des envies aussi de la personne qui passe commande. Okay. Ça marche bien.
Ben merci pour ces derniers conseils. Est-ce que tu aurais un dernier mot à indiquer aux personnes justement qui veulent se lancer sur le web, créer une page sur les réseaux sociaux, quel serait ton dernier conseil avant que tu nous parles un petit peu d'Amélie et du site internet et ce que tu proposes après pour conseiller et aider les artistes peintres?
Alors donc oui, effectivement, ce que je recommanderais aux artistes, c'est vraiment de... ma pensée qui s'échappe. Ça serait en fait de pas être trop perfectionniste. Parce qu'il y a des artistes en fait qui attendent trop et qui se disent j'attends le bon moment, j'attends. Ouais. Et en fait, c'est là où on loupe le coche. Donc la perfection, elle n'existe pas, même pour les artistes qui sont déjà confirmés, elle n'existe pas. On n'y arrive jamais. Donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter de procrastiner et à un moment donné se lancer. Et puis, au fur et à mesure, de toute façon, on va apprendre de ne pas avoir peur de l'échec aussi. C'est-à-dire que l'échec, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, par rapport à ça, on va apprendre des leçons aussi. Et ces leçons vont aussi nous permettre aussi de nous enrichir. Et dans le sens où on va être mieux équipé après pour les fois suivantes. Donc là-dessus, il faut se lancer. Il faut pas attendre le bon moment.
Ouais, comme après, quand ça commence, le meilleur moment c'était pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment c'est maintenant.
C'est ça, voilà. Et puis après, quand on commence à vendre, c'est aussi quand même à un moment donné rentrer dans les clous et penser à se déclarer et pas faire les choses pas trop dans l'illégalité, quoi.
Oui, parce ça, qu'on vend une ou deux toiles de temps en temps, c'est pas très grave parce que voilà, mais quand on commencera à en vendre 5, 10, là c'est un peu différent.
C'est ça, c'est que sur les réseaux sociaux, après tout se sait à un moment donné, donc vaut mieux à un moment donné se dire maintenant je fais les choses comme il faut. Et comme ça, au moins, ça ne crée pas de problème par la suite, quoi. Donc là aussi, y penser à un moment donné. C'est vraiment... J'arrête pas de dire à un moment donné, moi, il faut que j'arrête.
Justement, à un moment donné, on va peut-être passer justement à comment tu accompagnes, comment tu aides en fait les artistes peintres qui veulent se lancer. Là, c'est plus la partie artiste, mais c'est la partie art entrepreneur, comme tu dis.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que tu fais donc, tu as des livres. Là, bientôt, tu es en train de préparer une formation vidéo, une grande première.
Hein. Ça, c'est ça.
C'est un gros passage. Alors, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu proposes, comment tu peux les guider, etc.
Alors oui, alors déjà, en fait, j'ai un blog qui est accessible en ligne tout le temps. Donc, on trouve beaucoup, beaucoup de ressources quand même sur le blog. Donc ça permet aussi à des personnes de mieux me connaître, de comprendre un petit peu comment je pense. Après, on va avoir les livres numériques. Donc ce sont des livres à télécharger qui parlent de thématiques vraiment ciblées artistes-entrepreneurs. Donc par exemple, l'image de marque et l'artiste. Dans ce livre-là, je vais parler de comment structurer une biographie ou une démarche artistique, le texte qu'on doit réaliser souvent sur le site internet. Je vais aborder les galeries et l'artiste, je vais aborder aussi Instagram. Donc ça, c'est vraiment des livres qui sont sur des thématiques bien ciblées et que les personnes peuvent télécharger. Ça va de 50 à 200 pages. Et j'ai vraiment décortiqué à la manière de mes articles blog. C'est vraiment, je reprends vraiment la même façon d'aborder le sujet. Donc c'est très accessible. C'est essentiellement pour des gens qui débutent, qui se lancent ou qui sont plein de questions et qui n'ont pas forcément les réponses. Donc voilà, j'ai essayé de faire des condensés avec ces livres numériques. Et puis après, à côté, on a aussi des webinaires, en fait, qui sont une fois par mois. On peut venir se connecter. Tous les premiers jeudis du mois, en fait, on fait des vidéos en ligne et là, les gens se connectent et puis on aborde des sujets différents. Donc là, c'est gratuit, hein, c'est vraiment un webinaire qui est vraiment fait pour de la ressource gratuite. Et c'est super sympa parce qu'il y a le chat et du coup, les gens nous posent des questions en direct, ils interagissent. Des fois, ils donnent aussi leur expérience. Donc ça, c'est très, très, très riche d'expérience. Donc ça, on aime beaucoup. Et puis après, on va avoir aussi, de temps en temps, on fait des ateliers en ligne. Alors là, c'est des petits comités, des petits groupes, en fait, où on aborde différentes thématiques. Alors, on a abordé Instagram, on a abordé le portfolio, on a abordé le certificat d'authenticité, mais on est en petit groupe, ça va pas plus de 10. Comme ça, au moins, on peut échanger, c'est par Zoom, les gens,
c'est personnalisé, ils interagissent.
C'est ça. Et puis après, il y a aussi l'accompagnement. Alors là, l'accompagnement, c'est, ça permet en fait. Alors il y a des rendez-vous, il y a des rendez-vous en ligne qui permettent de se retrouver si vous avez une question particulière ou si vous avez un projet particulier et que vous voulez que je réponde à ce projet-là ou en tout cas qu'on réfléchisse ensemble. On peut se prendre une demi-heure, une heure et on discute là-dessus. Donc là, c'est tout à fait envisageable. Et après, on accompagne aussi. On propose une formule qui accompagne les gens sur plusieurs mois. Et là, on leur donne tous les outils, on voit les différents objectifs qu'ils ont envie de mettre en place. Et vraiment, là, on les accompagne main dans la main, c'est beaucoup d'échanges. Il y a des vidéos aussi. Enfin, c'est vraiment un beau paquet. Ils ont accès aussi à nos livres. Enfin, c'est vraiment très, 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 très épanouissant. Et puis, il y a une synergie aussi qui est très agréable. En fait.
D'accord.
Voilà, donc c'est ce qu'on propose aux artistes. C'est vraiment de l'aide. Après, nous, on est vraiment dans un modèle où on partage notre expérience. On a eu aussi des casseroles en tant qu'artiste. Et du coup, on essaye aussi de dire aux artistes d'éviter certains pièges, pas tomber dans ces casseroles-là. Et c'est pour ça, en fait, que le blog, je pense, qui tient toujours depuis ces années, c'est qu'en fait, il se rend compte que c'est hyper authentique et qu'on ne raconte pas des salades.
Ouais, en fait, tu partages ta vraie expérience.
Exactement.
Exactement. Ok. Et donc, tout ça, on retrouve sur quel site internet déjà?
Alors, il faut aller sur emily.fr.
Donc, voilà, ça s'écrit AMYLEE.fr.
C'est ça. Et donc là, vous avez tout, vous arrivez sur la page et puis vous choisissez là où vous voulez aller. Et donc voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous, on est hyper réactifs. Si vous avez doute sur, par exemple, l'acquisition d'un livre ou n'hésitez pas à nous poser la question en disant, voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Alors après, le sommaire est en ligne, donc on peut voir effectivement le contenu du livre sur sa fiche. Mais n'hésitez pas, franchement, des fois, nous, on répond à des questions ou même si la personne a des problèmes techniques, on peut l'aider là-dessus.
Ok. Merci Émilie pour cette interview longue et enrichissante. J'espère que nos chers auditeurs auront une réponse à leurs questions. Et je leur donne rendez-vous à très bientôt. Et n'hésitez pas à visiter le blog et le site Émilie. À bientôt.
Merci, à bientôt Frédéric.
Bye bye.
Bye.